dehors, l'impossible et moi, un calendrier intellectuel. Le mois d'octobre 2006, selon Dominique Scarfonnet.
Quand Nicolas Lévesque m'a demandé de participer à cette émission de Radio Spirale, j'ai tout de suite accepté parce que je considère que le travail que vient d'amorcer Nicolas est tout à fait important, dans la mesure où, en particulier au Québec, on n'a pas assez, en tout cas certainement pas trop, de lieux, d'espaces, d'occasions pour essayer de penser le présent, mais de le penser d'une façon qui ne soit pas celle des journaux et des magazines d'actualité, de le penser avec quand même un certain recul, un certain différé qui permette de poser une perspective différente de celle de l'urgence, de la réaction, du réflexe, et ainsi de suite. Mais quand est venu le temps pour moi de prendre des notes tout au cours du mois d'octobre, comme ça m'avait été demandé, j'ai constaté à quel point j'ai toujours eu de la difficulté à tenir un journal dans ma vie personnelle, donc, et comment ça me demandait une discipline différente de celle que je suis d'habitude, qui est celle d'un psychanalyste qui écoute, qui intervient, qui essaie ensuite de rendre compte de sa pratique et de sa pensée à travers l'écriture. Et donc, que ça me demandait une attention un peu différente. À quoi? Ben, puisque c'est un retour sur le mois d'octobre, évidemment, je ne pouvais pas ne pas me préoccuper de noter des faits marquants pour essayer ensuite d'en penser quelque chose et d'en faire quelque chose. Mais quoi? Comment dire quelque chose qui soit pertinent, qui soit signifiant, sans tomber ni dans la banalité, ni dans le bien-entendu, y compris le bien-entendu psychanalytique. Je ne voudrais surtout pas tomber dans le piège de l'observateur absolu, de l'observateur extérieur au monde qu'il s'apprête à commenter, au monde et aux événements qui ont marqué pour moi ce mois d'octobre. Donc le « pour moi » est ici très important. Et si je parle, si Nicolas m'a invité à parler du fait de notre rapport à tous deux à la psychanalyse, je n'oublie pas que ce n'est pas la psychanalyse qui parle, mais bien un individu qui se sert de la psychanalyse comme principal instrument de connaissance et de rapport au monde et aux autres, mais qui est toujours, ou essaie en tout cas, d'être toujours conscient du fait que la psychanalyse elle-même est, pour parler comme Lyotard, pour n'en nommer qu'un, est un jeu de langage particulier et que nous sommes toujours pris dans un jeu de langage, quel qu'il soit, et personne n'est en dehors d'un jeu de langage. Alors le mois d'octobre, pour moi, il a comporté tellement d'événements que ce serait bien prétentieux de prétendre en faire un commentaire qui s'attarderait suffisamment à toute l'importance qu'ont ces événements-là. Qu'il suffise de penser au massacre dans un village amish aux États-Unis, qu'il suffise de penser à l'explosion d'une bombe atomique, même minuscule, de la part de la Corée du Nord, qu'il suffise de penser à toute l'horreur qui se poursuit en Irak, en Afghanistan, ailleurs, dans des conflits nombreux, mais qui ne font pas la manchette. Et ainsi de suite. Donc, pour moi, qui en même temps suis engagé dans un processus de réflexion sur un aspect particulier auquel me confronte ma pratique, c'est-à-dire la répétition. La répétition, en effet, elle est là, sous nos yeux, tous les jours. Répétition dans l'érection d'un mur entre les États-Unis et le Mexique, par exemple, alors même qu'on se félicitait et qu'on dansait dans les rues pour la chute du mur de Berlin en 89, c'est à peine hier, avant-hier, tout au plus. Et donc de voir les murs à nouveau s'ériger, les murs dont je viens de parler, mais le mur aussi dans les territoires occupés en Cisjordanie, les murs qu'on érige face à l'arrivée des immigrants, des clandestins qui risquent leur vie et pour plusieurs la perdent d'ailleurs, en s'embarquant dans des rafiaux de fortune pour essayer d'atteindre un pays développé en venant du tiers-monde, après avoir été sans doute de façon éhontée, exploitée par les passeurs de ces systèmes clandestins. Tout ça me montre, à moi en tout cas, m'apparaît comme une manifestation de ce qui se répète. Ce qui se répète parce que des murs, on en a eu, parce que des guerres, ça ne fait que se répéter sans cesse, et parce que le rapport avec ces hommes et ces femmes, mais c'est surtout des hommes qu'on voit sur les plages, par exemple, des îles Canaries, atterrir épuisés, presque en danger de mort, ceux qui ont survécu, ça n'est pas sans rappeler qu'il y a quelque chose qui se répète là, dans l'ironie d'un envers, c'est-à-dire de l'Occident qui est allé conquérir des continents et qui maintenant est à son tour, entre guillemets, envahi, parce que je crois que c'est tout à fait une fausse impression que de parler d'invasion, envahi donc, entre guillemets, par ces hommes en quête d'un minimum de bien-être, de travail, et ainsi de suite. Et répétition, qui dit répétition, dit deux choses. D'une part, la répétition marque que quelque chose, bien sûr, puisque ça se répète, c'est que quelque chose s'est enregistré quelque part, c'est qu'il y a une marque sur laquelle ça fait retour. Et en même temps, tout nous montre que la répétition n'est jamais à l'identique. Et cette transformation qui s'opère au lieu même où se produit la répétition indique par ailleurs donc que quelque chose est au-delà du répétitif. Ça pour une part. D'autre part, qui dit répétition dit quelque chose qui se produit du côté de l'agir, du côté des actes non pensés. C'est-à-dire que ce qui se répète, c'est généralement ce qui n'a pas réussi à s'inscrire d'une façon qui soit signifiante, qui soit utilisable, qui soit pensable, qui puisse être intégré dans un tissu historique, psychique, interhumain, qui donne sens et qui donne donc la possibilité non plus d'un agir, mais d'une action au sens à la fois politique du terme, mais surtout d'une action qui soit en accord ou en raccord avec la mémoire assumée, la mémoire incarnée, habitée par des sujets, j'allais dire, qui en sont les porteurs. Alors, ce qui se répète marque donc paradoxalement à la fois la persistance d'une mémoire, mais d'une mémoire qui est aussi, par le fait que ça se répète dans l'agir, et non dans la symbolisation, et non dans la pensée, et non dans la représentation éventuellement politique, sociale, historique, affective, que ça marque aussi l'oubli. On a oublié, par exemple, on ne parle plus maintenant que les « boat people », comme on les appelle, échouent en grand nombre sur les plages de l'Occident. On ne se souvient plus que durant les années 60 et 70, il y avait un énorme espoir dans ce qui s'appelait le tiers-monde, les pays qui n'étaient pas encore en émergence, comme on les dit maintenant, mais qui espéraient pouvoir constituer un ordre mondial dans lequel les plus pauvres auraient aussi la possibilité de concourir à un certain bien-être partagé. On a oublié que au moment même où les puissances occidentales n'ont plus été en mesure de soutenir les dictatures, les régimes militaires forts dans ces pays, qu'ils ont du même coup freiné, gelé leur aide, leur intérêt pour ces mêmes pays, et que ces hommes et femmes qui viennent échouer sur nos rives sont là pour nous rappeler aussi tout l'investissement et le désinvestissement qui a eu lieu durant des décennies et qui fait en sorte que le repli sur une politique occidentale ou occidentalocentriste, si on veut, constitue une sorte d'oubli, l'oubli d'une promesse qui pourtant était faite par le capitalisme régnant, en acceptant la mainmise des puissants sur ces pays, on allait du même coup les embarquer dans le train de ce qui s'appelle, ce qui s'appelait et qui s'appelle encore, mais mot auquel il faut mettre d'énormes guillemets, progrès, développement, et ainsi de suite. Oubli aussi du fait que s'il y a eu une euphorie lors de la chute du mur de Berlin en 1989, c'était dans l'espoir que désormais les frontières deviennent plus poreuses, plus perméables. Mais la porosité à laquelle on a assisté, ça a été encore celle des puissants. Ça a été encore celle de la mondialisation économique, mais entendue au sens des intérêts des grandes puissances transnationales, des grandes sociétés qui sont en train de tourner chaque pierre qui existe sur la planète et d'où on peut extraire le profit. Alors que l'espoir de la chute du mur de Berlin, l'espoir que ça suscitait, cette chute, c'était plutôt le fait que désormais la parole, la liberté de penser, d'écrire, de faire valoir ses intérêts, la liberté aussi de circuler, soit désormais plus grande, que les frontières des régimes dictatoriaux, autoritaires, comme on les appelle parfois, s'atténuent, que les frontières qui protègent les forteresses de la richesse occidentale soient plus ouvertes, plus tolérantes envers l'arrivée d'hommes et de femmes qui d'ailleurs ne demandent qu'à venir y travailler, qu'à venir y être utiles et à vivre une vie meilleure que celle que les conditions de leur pays leur offrent. Liberté aussi qui est promise et qui est jusqu'à un certain point actualisée, heureusement, par ce qui s'est développé au moment même où tombait le mur de Berlin, c'est-à-dire l'Internet par lequel cette transmission, cette émission à laquelle je participe aujourd'hui même est rendue possible. Mais cette communication plus grande, cette liberté de traverser les frontières de l'information, on la voit aussi aujourd'hui gravement affectée par l'horreur des meurtres. Je pense ici au meurtre des journalistes et je pense en particulier à Anna Politkovskaya qui a été assassinée durant ce mois d'octobre. Assassinée, on le sait, pour des raisons politiques, pour des raisons pour faire taire, pour censurer indéfiniment une parole qui cherchait à dire le vrai, avec bien sûr toutes les limites de la position subjective que tout journaliste tient, qu'on le veuille ou non, mais quand même qui a essayé de documenter, d'être témoin, de témoigner donc d'une réalité horrible, une réalité politico-militaire qui, sans le courage de journalistes comme elle, resterait totalement secrète, totalement cachée. Et l'on se doute bien, et l'on sait en fait, on découvre souvent après coup, combien d'horreurs nous sont tenues cachées par les pouvoirs tant qu'ils en ont la capacité. Et donc combien est significative l'intention, la volonté, l'effort, combien est important le mouvement de volonté de journalistes comme Anna Politkovskaya qui essaie de témoigner des faits, d'aller à l'encontre de cet effort de censure que les puissants veulent imposer à la conscience humaine. Donc, parmi les événements du mois d'octobre, il y a là aussi une répétition dans ce meurtre, c'est-à-dire répétition de quoi? De la démesure, de la démesure des puissants, parce que depuis toujours, et si on doit faire un bref recul dans l'histoire récente, depuis Tiananmen, depuis la Tchécoslovaquie 1968, Prague, depuis la Hongrie 1956, bon, c'était le 50e anniversaire, tout atteste que le pouvoir de censurer n'a qu'un temps, que la vérité est comme un torrent, une rivière qui peut parfois disparaître et se frayer un chemin souterrain, mais qu'un jour ou l'autre, elle ressurgit au grand jour, qu'un jour ou l'autre, les puissants doivent rendre compte et que c'est tout à fait déplorable, cette répétition, cet oubli répété du fait qu'il est vain de vouloir obturer l'accès à une vérité historique. Et si j'en parle dans ces termes-là, c'est bien sûr avec une résonance évidente à ma pratique de psychanalyste, mais sans invoquer quelque autorité que ce soit de ma part pour en parler, je parle ici à titre de citoyen qui me semble autorisé à constater ce que je viens de dire comme une vérité vérifiable, c'est-à-dire le silence, la répression, l'injustice n'ont qu'un temps. Ça va se répéter, bien sûr, mais ce qui se répète aussi, c'est la possibilité que la répétition donne lieu à une prise dans le champ de la subjectivité, dans le champ symbolique interhumain, dans le champ donc du sens, de l'histoire et de la mémoire assumée et de l'action politique possible. Je ne voudrais pas sembler en même temps trop optimiste, c'est-à-dire que je sais très bien que, en tout cas, j'ai appris, j'allais dire presque à mes dépens, dans le sens que on se prend parfois à croire à un progrès et pourtant la réalité dément cette idée d'un progrès qui serait une ascension continuelle vers un mieux, avec bien sûr, pense-t-on, des détours, des accidents de parcours, mais dans une orientation générale bonne. Tout, malheureusement, nous porte à devoir admettre le contraire. Nous voyons que, d'une certaine façon, il n'est pas vrai que l'histoire nous apprenne quelque chose, du moins tant que nous n'avons pas la possibilité de faire un retour dans un après-coup fertile sur cette histoire pour constater ce qui, dans notre mémoire, se loge sous l'emblème de la répétition et donc de l'oubli. Et cette constatation me rend parfois pessimiste quant à la possibilité de triompher un jour des inégalités trop criantes, des injustices trop révoltantes, des exploitations trop inhumaines, et ainsi de suite. De l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants qui est redevenue une source de préoccupation importante aujourd'hui, alors que je me souviens quand j'étais enfant encore, on entendait mystérieusement parler de la traite des blanches et ça avait fini par apparaître comme une sorte de légende, une sorte de mythe qui, avec le progrès, avec les communications, avec le développement économique et démocratique, et ainsi de suite, serait devenue une chose du passé et peut-être même pas sûre d'avoir existé. Mais aujourd'hui, on sait que c'est une réalité bien effective. Et ce n'est qu'une des formes donc que prend notre réalité multiple où il y a du bruit, de la fureur, du sang, de la torture, de l'exploitation, la faim. La FAO reconnaissait dans ces derniers jours d'octobre l'échec total des programmes qui avaient eu pour objectif de réduire la faim par comparaison au niveau de 1990. Donc, 16 ans plus tard, nous n'avons pas avancé d'un pouce sur cette question. Il y a des gens qui ont faim tous les jours. Je ne parle même pas de ceux qui meurent de faim, qui est déjà une chose terrible. Je parle de ceux qui, jour après jour, vivent avec la faim au ventre. Et je crois que c'est même très délicat d'en parler parce que c'est difficile pour nous qui avons le problème inverse, comme on nous l'a appris aussi ce mois-ci, au Québec, c'est-à-dire problème d'embonpoint, d'obésité, et ainsi de suite, avec tout ce qui s'ensuit. C'est donc difficile pour nous de vraiment savoir ce qu'est la faim. Et j'ai presque honte de dire que devant cette question, évidemment, je me sens comme individu, comme citoyen, totalement impuissant, mais en même temps que cette faim qui touche en particulier l'Afrique est une question qui, puisqu'elle ne fait les manchettes que très rarement, ou qui semble tellement une question convenue. Ben oui, en Afrique, on a faim. Et ça ne se réglera jamais, ça ne s'est jamais réglé. Et on oublie là aussi, on oublie quelle part joue dans une sorte de système d'interdépendance globale, quelle part joue, je dirais, l'obésité de l'Occident dans la faim dont souffre une part de l'humanité quotidiennement. Et ça, sans parler du sida, du paludisme, etc. Bon, portrait très sombre, mais que j'inscris toujours sous la marque de la répétition, sous la marque de ce qui, en fait, m'interpelle à la fois comme personne individuelle et comme citoyen, donc, et comme psychanalyste. C'est-à-dire que là où, si la psychanalyse que j'exerce et dont je cultive, selon mes moyens modestes, la pensée, si la psychanalyse a quelque pertinence, ce n'est pas seulement en tant qu'instrument thérapeutique individuel dans le secret du cabinet du psychanalyste, mais aussi en tant que voix VOIX qui devrait rappeler à nos confrères humains, à nos concitoyens, l'importance de ce qui s'oublie et l'importance de la reprise nécessaire dans une trame de mémoire incarnée, habitée, historiquement significative, de ce qui a tendance à toujours s'échapper du côté de l'oubli. Et si je me permets d'insister sur cet aspect, c'est que c'est là que je vois la conjonction, l'articulation possible entre ce que je fais tous les jours en tant que psychanalyste et ce que je vis aussi tous les jours en tant que citoyen qui lit les journaux, qui regarde les bulletins de nouvelles télévisés, qui écoute la radio et qui se sent révolté, indigné, et se demande parfois ce que je peux faire.